Sens des études, sens du travail, que pensent ceux qui ont 20 ans en 2020?
Être et savoir, Louise Touret.
Alors, je dois vous faire un aveu, je ne sais pas si les années 20 ont commencé le 1er janvier ou si c'est l'année prochaine. En fait, je crois que c'est plutôt l'année prochaine. Mais en ce début d'année, nous voulions nous tourner à la fois vers les décennies passées et vers celles à venir pour parler de la jeunesse ou des jeunesses, car il y a bien des manières de vivre ses études et son entrée dans le monde du travail. Nous tourner vers le passé, donc, pour tenter de comprendre ce qui est arrivé au travail, à l'orientation et à la situation des étudiants pour que monte de manière très sensible un mécontentement des jeunes diplômés à cause des stages et plus encore du fait de ce qui est décrit comme une perte de sens ou plus prosaïquement des bullshit jobs, boulot à la con si vous voulez une traduction, une manière de qualifier le travail qui aura marqué nos années 2010. Tout cela sur fond d'un chômage de masse bien installé qui fait que d'autres jeunes, pas ou très peu diplômés, disent eux ne plus avoir de rêve. Ces jeunes sont 14 millions en Europe. Ils ont désormais l'âge du terme par lequel on les désigne, NEET, un acronyme utilisé depuis 1999 et qui signifie en anglais « ni employé, ni étudiant ». Et puis, nous voulons aussi regarder vers l'avenir, puisque ces phénomènes qui touchent ceux qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, pour aller vite, s'étudient du côté de la sociologie du travail. Ainsi, à vous nous convier le chercheur François Sarfati. Tout cela est aussi exploré par la littérature, et c'est l'autrice Noémie Lefebvre qui sera avec nous dans un instant. Et enfin, cela se pense et se surmonte peut-être, j'espère, collectivement pour les premiers concernés. Aurore Lebihan du collectif Paumé est également notre invitée pour ce premier numéro d'Être et Savoir de l'année 2020. Ça, on en est sûr. Bonne année à toutes et à tous. Et en fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert, et ce sera avec Sarah Kaminski, fille du célèbre faussaire Adolfo Kaminski. Elle en a des choses à raconter. Vous l'entendrez vers 17h53. Alexandre Dang est à la technique, Émilie Valla est à la réalisation, et cette émission a été préparée avec Avril Ventura. Je vais saluer tout de suite nos invités. Noémie Lefebvre, vous êtes en duplex de Lyon. Vous êtes autrice notamment de Poétique de l'emploi, L'enfance politique et L'état des sentiments à l'âge adulte, des textes publiés chez Vertical, respectivement en 2018, 2015 et 2012. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc en duplex depuis le studio de Radio France à Lyon et on remercie Chantal Nouvelot qui nous permet de réaliser ce duplex et d'offrir un son de qualité à nos auditeurs. C'est important pour nous. Aurore Lebihan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-initiatrice de la communauté, pardon, Paumé, sur une communauté qui appartient à l'association Make Sense, et vous publiez un podcast, on peut l'écouter en ligne, dont le nom est Paumé également, un podcast où se racontent des jeunes gens entre 20 et 30 ans qui parlent de leur entrée dans le monde du travail et de leur quête de sens, mais on va en écouter un extrait dans un instant. François Sarfati, bonjour.
Bonjour Louise Touret.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Saclay, membre du centre Pierre Naville et du centre d'études de l'emploi et du travail. Et vous menez des recherches sur les questions de formation, de travail et d'emploi. Vous étiez donc l'invité idéal pour cette émission. Vous avez publié en 2012, du côté des vainqueurs, une sociologie de l'incertitude sur les marchés du travail. Et c'est aux presses universitaires du Septentrion.
Non, moi je ne rentrerai pas. Non, je ne rentrerai pas là-dedans. Ça, je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle, hein. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Faillote avec le patron, c'est tout ce qu'elle a à faire, de toute façon, alors. En tout cas, moi, je rentre pas, c'est pas la peine, je rentre, c'est pour...
Ils vont être comme ça, maintenant. Ils
reprennent. C'est ça, mon bon.
Dans le calme. Je répète, les gens de chez Vendeur, rentrez, reprendre votre travail tranquillement.
C'est ça.
La reprise du travail aux usines Vendère, c'est un film dont Jacques Rivette a dit qu'il s'agissait du seul film intéressant sur les événements de mai 68, un film d'étudiants de Jacques Villemot et d'autres étudiants de l'IDEX, c'est l'ancien nom de la FEMIS. On n'a jamais vraiment retrouvé cette jeune femme, on ne connaît que son prénom, Jocelyne. Aujourd'hui, en 2020, ce sont des jeunes très diplômés qui sont employés dans des bureaux, et qui gagnent parfois très bien leur vie, qui ne veulent pas retourner dans cette tôle, Aurore Lebihan. C'est un constat que vous dressez.
En effet, quand on a lancé la communauté paumée de Make Sense il y a un an et demi, on s'attendait pas à avoir un tel engouement en fait. Donc c'est à la base un podcast, mais c'est aussi des événements et un groupe Facebook où les gens témoignent en fait de cette crise de sens qu'ils vivent au quotidien. Et en effet, on était assez étonnés. Et en même temps, pas si étonné que ça, parce que avec mes collègues Lucie et Simon, avec qui on l'a lancé, on a aussi traversé cette quête de sens. On a aussi fait des études supérieures qui nous menaient vers une voie plutôt royale et une carrière bien payée. Et en même temps, on a un peu tourné le dos à ces carrières-là pour essayer de trouver un métier qui faisait sens pour nous. Et donc, c'était pas non plus un hasard de constater que c'était pas quelque chose qui nous touchait, nous trois, mais bien, là, il y a 10 000 membres dans le groupe, sans aucune communication, c'est uniquement organique. Les événements qu'on organise autour paumé dans mon job, paumé dans le sens au travail, après on a d'autres thématiques, mais font carton plein à chaque fois, et on sent vraiment un vent de quête de sens très très fort, chez en effet des jeunes qui, a priori, n'étaient pas nécessairement inquiétés par le sens de leur travail précédemment, parce qu'ils avaient le salaire, le confort, la carrière.
On peut peut-être illustrer cette quête de sens en écoutant Manon. C'est le premier podcast que vous avez publié, donc sur Paumé. On mettra le lien, bien sûr, sur notre page Être et Savoir sur le site de France Culture. Écoutons Manon.
Je cherche un boulot à plein temps, potentiellement dans ce que je connais, donc plutôt start-up, et si possible avec du sens. Et j'ai beaucoup de mal à la fois à chercher, à la fois à trouver des endroits dans lesquels j'aurais envie de postuler et à trouver la motivation de postuler. Déjà, le premier truc qui me saoule, c'est les sites d'annonces de jobs, notamment les plus connus sur l'univers start-up, oui, c'est quasiment que des start-up qui recrutent. Et je suis devenue allergique à leur description. C'est vraiment plein de bullshit. Enfin, je sais pas, ils vendent des trucs comme leur baby-foot ou l'ambiance start-up. Je trouve que ça veut rien dire et ça me fait vachement plus peur que ça me donne envie d'aller les rencontrer. Les photos, comme si c'était une soirée alors que c'est une entreprise, ça me déprime plus qu'autre chose aussi. Enfin, je sais pas, je pense que le fait d'avoir déjà vu de l'intérieur ce milieu-là, je vois ce qu'il y a derrière et je crois pas du tout à cette promesse-là. Et au-delà de ça, je suis devenue beaucoup plus attentive à la mission des entreprises, à leur utilité sociale, sociétale, et j'ai beaucoup de mal à trouver des entreprises qui me semblent avoir une démarche intéressante ou dans lesquelles j'ai l'impression que mon job aura une utilité pour la société. Ouais. Si on cumule le fait que j'ai envie d'une entreprise qui ait une mission intéressante, que faut que le poste y corresponde à mes attentes et qu'il soit aussi, enfin que j'ai envie de me mettre à fond dedans, et qu'en plus de ça, j'aimerais quand même garder un niveau de vie confortable, bah c'est compliqué. Hein. Au-delà du job lui-même, je cherche une entreprise qui ait du sens. Je crois que c'est mon premier critère, parce que au sein de cette entreprise, si je fais des trucs qui sont pas hyper visiblement impactant, ça me dérange pas si j'ai l'impression de servir une cause qui en elle-même est utile, quoi. Mais une entreprise qui ait du sens, ça serait une entreprise qui va dans le bon sens, qui contribue à des externalités positives, enfin, socialement et ou écologiquement. Ma problématique actuelle, ça serait comment trouver un job qui soit utile à la société dans son ensemble et qui ne remplissent pas pour unique fonction de remplir mon porte-monnaie et de remplir celui de l'entreprise, mais qui soit quand même épanouissant, intéressant, qui paye, le job parfait. Mais c'est vrai que la problématique principale, c'est vraiment quand même trouver quelque chose qui fait sens.
Un témoignage à la première personne de Manon, donc, qui se dit elle-même paumée et qui appartient à cette communauté à la fois virtuelle et dont on a entendu qu'elle avait pris de l'ampleur. 10 000 jeunes gens qui s'y sont inscrits. Noémie Lefebvre, vous aussi, vous écrivez à la première personne, mais c'est la voie de la littérature que vous choisissez pour documenter quelque chose qui se rapproche de ce qu'on vient d'entendre, la quête de sens, quelque chose aussi qui pourrait être appelé aujourd'hui, est appelé aujourd'hui le burn-out.
Oui, certainement que l'emploi de la première personne permet de poser la question du sens un petit peu autrement que quand on fait des sciences sociales. Bien que l'approche en social soit très très importante, et je la dénigre pas du tout, mais parler à la première personne, c'est aussi pouvoir proposer des personnages, des visions qui sont pas forcément des résultats, mais qui sont aussi des prospectives, des images. Et faire, par exemple, là, la personne qu'on vient d'entendre parle du sens du travail. Et la quête du sens, bon déjà, parfois, la quête du sens du travail, c'est d'abord d'avoir un travail, rappelons-le.
Bien sûr.
Et que, il y a aussi cette question qui se pose maintenant aux classes, disons, plus classes supérieures, ou des gens qui ont fait des études supérieures, du travail idiot, du travail stupide. Voilà. Donc moi, j'essaie de poser en littérature cette question du travail idiot à partir de gens qui sont plutôt des losers, des intellos, petits joueurs, des presque poètes, des inutiles, des paumés, c'est gens qui n'intéressent pas beaucoup, mais moi qui m'intéresse.
Et ça produit tout un tas d'effets qui vont de la dépression à la poésie, et sûrement en passant par encore plein d'états. Noémie Lefebvre, c'est ce qu'on lit sous votre plume.
Oui, c'est-à-dire que je pense que la dépression, qui est une maladie pénible, enfin un état pénible, difficile à vivre, c'est aussi un moment qui est une alerte sur le fait que voilà, l'environnement, même l'environnement des études, est un environnement très difficile. À Lyon, on peut en parler, parce qu'il y a eu la tentative de suicide du jeune Anas de Lyon 2, et qui a marqué beaucoup cette ville, et qui pose vraiment de manière fracassante, en fait, cette question du sens pour des enfants de 20 ans, du sens de leurs études, de la vie future, et puis de ce qui les attend, et de la façon dont on leur parle aussi. Donc c'est pas que des conditions matérielles, bien sûr, pour Anna c'était difficile, mais c'est aussi la façon dont on nous parle, la façon dont on peut envisager, imaginer quelque chose.
Quelque chose pour sa vie et quelque chose qui va un peu au-delà pour le collectif, peut-être, mais ça, on va y revenir. Restons sur les bullshit jobs, puisque cette formule a été lancée dans les années 2010. En 2018, elle a vraiment été popularisée par David Graeber, qui l'avait inventé un petit peu avant, avec un livre publié en France aux éditions du Lien qui Libère. Vous m'avez dit, pendant qu'on écoutait Manon, François Sarfati, que vous collectionniez les photos de babyfoot en entreprise.
Alors c'est intéressant ça. Effectivement, dans les années 2000, les start-up, les premières start-up de la première vague, au moment de cette bulle Internet, collectionnaient les baby-foot et on nous montrait des entreprises qui étaient censées être différentes. On sait ce qu'il est advenu de cette bulle, elle a éclaté comme toutes les bulles. Et puis aujourd'hui, le management continue à surfer finalement à nouveau frais sur cette idée-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va dans les entreprises, on parlait des start-up tout à l'heure, on retrouve à nouveau des baby-foot, mais je dois dire que cette collection que j'initie de photos de baby-foot sur le lieu de travail, elle commence à être assez étoffée, et pour ne donner qu'un seul exemple, au ministère des Finances, à Bercy, il y a des baby-foot dans un hall qui permettent, on l'imagine, y compris à des hauts fonctionnaires, des gens bien sous tout rapport, classiques comme tout, censément d'aller se détendre rangement. On imagine mal que ce soit autre chose qu'une mise en forme, une mise en scène du travail.
ils ne sont pas là pour nous répondre, même sur un sujet qui a l'air comme ça anecdotique, mais c'est un symbole. Comment vous parlent les jeunes? Alors, on commence par les jeunes diplômés, on viendra ensuite à ceux, bien sûr, et c'est important d'en parler, qui n'ont pas de diplôme. Ces jeunes diplômés sont relativement privilégiés de cette entrée dans le monde du travail, passer la période de stage, ou même des études qui parfois coûtent très très cher et dont on ne sait pas très bien vers quel emploi, en tout cas quelle vie elle mène en termes de sens.
Il y a un élément qui me paraît central. On assiste depuis une quinzaine d'années à la profusion de théories managériales autour desquelles on nous explique que les millennials, s'ils existent, seraient des gens qui, parce qu'ils sont nés avec les nouvelles technologies, auraient une distance avec le travail et puis seraient zappeurs, seraient moins attachés au travail. Je trouve ça intéressant parce que tant dans le témoignage d'Aurore Le Billan que... de la personne en studio à Lyon, on voit très bien qu'en fait...
Noémie Lefebvre,
il y a un attachement très fort au travail. L'attachement très fort, cette centralité du travail se retrouve de manière générale dans la société française, mais en particulier c'est chez les jeunes. Et si ils viennent contester, critiquer le fait d'être relégués à des bullshit jobs, c'est justement parce qu'ils investissent beaucoup dans cette activité de travail. Autrement dit, on est loin de générations jeunes qui mettraient à distance le travail, on est loin de situations dans lesquelles les jeunes ne voudraient plus travailler. Au contraire, on est dans une revendication d'un travail enrichissant, d'un travail qui permette de s'épanouir, et puis d'un travail au fond dans lequel on a l'impression de servir à quelque chose, de se mettre en mouvement au service de quelque chose.
C'est ce que dit aussi la sociologue Danielle Linard, qui vient de publier un nouvel ouvrage et qui réaffirme la centralité du travail dans notre société, et ce, malgré un chômage de masse. Aurore Le Billan, vous, les paumés, et est-ce que vous souscrivez à cette idée de centralité du travail? Parce qu'après tout, si le travail qu'on nous offre peut être dénué de sens aux yeux de ceux qui l'occupent, si il est difficile à trouver, si on a peine à se réinventer une nouvelle vie, est-ce qu'on pourrait imaginer de moins travailler, par exemple?
Alors, chez les paumés, donc je rejoins complètement cette idée de centralité du travail. S'il y a autant de personnes à ces événements-là, c'est clairement pas qu'ils rejettent le travail, c'est qu'ils recherchent plus de sens, et ce sens est subjectif, il peut passer par plein de manières selon les personnes qui le vivent,
pour votre communauté, le sens, la centralité du travail, parce qu'après tout, au lieu de chercher un sens à tout prix, on pourrait
aussi mon cas et l'organisation dans laquelle je travaille, il y a de plus en plus de personnes qui, par exemple, demandent à passer au 4-5e ou d'aménager du télétravail. Et moi, à titre personnel, c'est vrai que, par exemple, je trouve qu'on travaille trop. Alors, c'est quelque chose qui est ressenti aussi par, j'ai l'impression, beaucoup de gens autour de moi qui aspirent, en fait, à plus de lenteur, à peut-être se déconnecter plus souvent. Enfin, on a des métiers qui sont devant des écrans toute la journée, qui font qu'on est souvent complètement en train de zapper d'une activité à l'autre, et que ça, à la fois, nous empêche d'être productif et efficace dans ce qu'on fait, mais aussi nous rend assez malheureux parce qu'on fait rien de vraiment très concret. Et du coup, j'observe autour de moi et aux événements et quand je discute avec d'autres paumés, une vraie envie de ralentir, mais aussi de faire des tâches plus concrètes, là où le sens, en fait, semble évident. Enfin, je pense qu'en effet...
L'artisanat, par exemple, ça a été décrit par un livre de Jean-Laurent Casselli, qui était venu d'ailleurs dans l'émission à l'époque où elle s'appelait Rue des Écoles, pour parler de ces premiers de la classe qui deviennent qui ébénistes, qui fromagers, qui ouvrent des boulangeries, alors qu'ils sont très diplômés, par exemple, sortent d'école de commerce.
Oui, en effet, une grande partie qui veulent se reconvertir dans des choses manuelles. Après, on observe plein de types d'envies de reconversion. Il y a aussi l'envie de se rapprocher de la nature qui est très forte en ce moment. L'envie de travailler différemment, de travailler pour son autonomie, en fait. C'est-à-dire pas uniquement travailler dans un bureau, mais peut-être cultiver son jardin, fabriquer soi-même des choses, parce qu'on est quand même dans un contexte écologique très très spécifique, qui fait qu'il y a aussi cette envie de devenir plus autonome.
Alors, vous avez utilisé une expression « cultiver son jardin », qui a toute une histoire. Cultiver son jardin, c'est aussi possiblement se replier sur soi. Ça pose la question de l'expression politique de ce malaise face au travail. Noémie Lefebvre, vous avez parlé pour le coup d'un étudiant, Anas, qui lui était politisé, qui a laissé une lettre où il exprimait aussi des revendications. Que pensez-vous de ces expressions qui sont à la fois à la première personne, mais aussi assez individuelles finalement, et de leur possible portée politique ou de la transformation de toutes ces individualités en une parole politique qu'on pourrait retrouver aussi peut-être dans la parole des politiques aujourd'hui?
Écoutez, je pense que dans le cas, en tout cas, de la lettre qu'a laissée cet étudiant, il y a quelque chose qui a une dimension littéraire, en tout cas, alors pas au sens de la littérature avec un grand L, et ça n'a pas d'importance, mais simplement sur le fait que quand on écrit, que ce soit un roman, de la poésie ou une lettre ouverte, c'est qu'on a vraiment quelque chose à dire d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a une quête de sens, non pas une quête... comme ça, de paumé, quelque part, on cherche des repères, mais une volonté de dire du sens, et de le dire tout de suite, d'urgence. Et c'est, à mon avis, c'est une des difficultés actuelles, c'est que il y a effectivement à la fois peut-être une déperdition de sens au quotidien, de ce qu'on fait, des actions qu'on mène, dans certaines catégories sociales, pas pour tout le monde, et d'autre part, une énergie vitale extraordinaire et nécessaire de dire ce qu'il faut d'urgence trouver du sens. Parce que quand on est confronté, voilà, à des formes discursives extrêmement puissantes, hein, qui sont celles de l'enseignement supérieur actuellement, très ancré dans des démarches d'insertion sociale, dans le marché, etc., très concurrentielles, eh ben, disparaît cette possibilité de dire. Et s'il y a une place que doit avoir la poésie et la littérature, c'est à côté des gens qui sont dans l'urgence de dire quelque chose.
Justement, à propos de littérature, je voulais vous soumettre cette anecdote, Noémie Lefebvre. Il y a un livre qui a obtenu le prix Goncourt en 2018. C'est « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu. Ce livre a été cité, un passage très court, a été cité par Emmanuel Macron dans ses vœux. Un livre dont Le Monde nous disait récemment que les membres du gouvernement se le recommandaient et se le prêter et que pourtant ce livre qui est très critique envers la politique actuelle documente la reproduction sociale. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'un tel roman aujourd'hui soit précisément lu par les politiques comme un document du réel?
Bah écoutez, en fait, ça m'inspire pas grand-chose. Je me dis, c'est bien qu'ils lisent. Tout le monde peut lire des livres, donc aussi les gouvernements peuvent lire des livres, essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Je sais pas quoi vous en dire, sinon que il y a toujours des distorsions de sens et que c'est pas parce que tel ou tel personnage politique est allé voir un film ou a lu un livre et qu'il le dit. Qu'il faut en tirer quelques conclusions sur ses futures manières d'agir. Voilà, c'est ce que je pense. C'est que ça veut tout dire et rien dire en réalité.
François Sarfati, vous qui produisez aussi des textes, mais pour le coup des textes universitaires, le fait qu'on décrive une jeunesse d'un côté, comme dans le livre de Nicolas Mathieu, qui se sent condamnée, ou en tout cas pour laquelle les possibilités semblent extrêmement réduites aujourd'hui, et que de l'autre côté, les plus diplômés se sentent autorisés à ne pas utiliser leur diplôme.
Il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord un sujet qui me semble important dans ce qu'on a pu lire sur ces bullshit jobs. Ces bullshit jobs, c'est au fond un processus de rationalisation de travail tel qu'on a pu le voir tout au long du XXe siècle. Et ce processus de rationalisation du travail atteint aujourd'hui et depuis une vingtaine d'années la rationalisation y compris du travail intellectuel. On a pu découper des tâches en micro-tâches pour des gestes classiques dans le cadre du travail dans les usines notamment. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les grandes entreprises participent de mettre en place des systèmes de rationalisation de travail intellectuel. On le voit dans l'ingénierie. On le voit aussi, par exemple, dans le monde du conseil, quoi. Une boîte de conseil, devenir consultant aujourd'hui, c'est pas inventer des solutions sur mesure adaptées aux clients. C'est suivre un livre de recettes de cuisine pondu par quelqu'un de l'entreprise, un des fondateurs du cabinet de conseil, et c'est adapter tout à fait à la marge et donc produire une activité très routinisée, rationaliser. On peut regarder ça dans tout un tas d'autres activités de travail aujourd'hui, y compris des activités qui jusque-là étaient des activités de travail intellectuel un peu autonomes. Je vois notamment, il y a des sites internet qui vont, on dit, ubériser le métier d'avocat, on va dire un certain nombre de choses de cette nature-là, et à chaque fois, il y a évidemment une tentative d'organiser, de surorganiser, de surdécouper l'activité pour être plus efficace, à des fins productives et évidemment à des fins de rentabilité, mais de fait, à un moment donné, y compris des jeunes qui se préparaient à mener ces fonctions en utilisant leur savoir, leur expérience, la malice aussi. Quand on travaille, on fait preuve de malice, d'intelligence pratique, y compris quand c'est sur des tâches intellectuelles. Et bien de fait, on se retrouve à un certain nombre de fois où ça va être de moins en moins possible parce que les choses sont de plus en plus dictées par quelqu'un. Et donc, il y a bien une forme d'hétéronomie propre à ce processus de rationalisation. Alors, ça, c'est un premier élément qui fabrique une forme de perte de sens. Et face à ça, il y a plusieurs mécanismes de défense. Un premier mécanisme de défense chez des jeunes gens, en particulier des jeunes gens diplômés, on va retrouver dans les enquêtes des tas de gens qui vont dire « Moi, au fond, ce que j'aimerais, c'est quitter la grande entreprise et je voudrais monter ma boîte. » Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que le personnel politique dit « Oh là là, ça y est, demain, on va faire une société d'entrepreneurs. Tout le monde ne pense qu'à une chose, c'est devenir son propre patron. » Ce qui est intéressant là-dessus, c'est de constater que, au fond, au cours des 15 dernières années, la part des indépendants dans la population active n'a pas changé d'un iota. Rien. 90% des actifs sont du côté des salariés. Et donc, on n'a pas explosé la part du nombre d'indépendants. Ceci dit, cette revendication d'un certain nombre de jeunes, et en particulier de jeunes cadres, à l'indépendance, c'est moins une volonté intrinsèque d'être son propre patron. C'est surtout une façon de dire, il y en a marre des injonctions, il y en a marre de l'autorité, il y en a marre du management idiot. Et du coup, face à ça, le rêve, c'est faire un pas de côté, se mettre à son propre compte. Et souvent, dans les entretiens qu'on peut faire avec les salariés, les gens disent, non, mais moi, je veux monter ma boîte, mais je veux pas monter une grosse boîte, parce que je veux pas, à mon tour, remonter une grosse structure, je veux pas, à mon tour, devenir un chef, devenir un manager, je veux sortir de la hiérarchie. Donc le fantasme de l'indépendance, il est de la même manière une façon de lutter contre ces formes de bullshit job. Et ce qui est intéressant, c'est que le politique, c'est une machine à digérer tout ça. Vous posiez la question de savoir tout à l'heure dans quelle mesure, au fond, le politique avait envie d'avancer, de tenir compte de formes de critiques sociales.
Ou même de reprendre ce qu'on entend monter, hein, puisqu'on le voit quand même, et de la part des jeunes, et pas seulement des jeunes, mais quand ça commence très tôt, cette quête de sens, on devrait s'inquiéter sur ce qui va se passer dans les années qui suivent. Il y a sûrement quelque chose à en faire politiquement. Qu'est-ce que vous observez en tant que sociologue, François Fati?
Moi, je pense que ce qu'il y a à en faire politiquement, c'est à mon avis, ils n'ont pas réinventé des formes en dehors du salariat pour lesquelles il y a finalement très peu d'aspiration dans le fond. On peut avoir envie de monter sa boîte pour se mettre à l'épreuve, pour essayer de faire quelque chose de différent. Mais en fait, quand on interroge avec précision les gens disent très bien dans les enquêtes qu'ils veulent, au fond, quand même, continuer à avoir des droits. Et les droits, c'est ça qu'on obtient dans la contrepartie du travail dans une entreprise. On n'a pas qu'un salaire dans son travail, mais on a aussi un certain nombre de droits sociaux. Et de fait, la quête d'indépendance est plutôt à comprendre comme une quête d'autonomie dans le travail pour pouvoir avoir l'impression de faire marcher son cerveau, de faire marcher son habileté au service de quelque chose. Et non pas d'imaginer que le monde demain sera plus beau quand on aura une bordée d'indépendants complètement atomisés et tous concurrents les uns des autres.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Mais là j'ai trop joué. À ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier.
Je vais faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans Être et Savoir. Je dédicace cette chanson à Louise Sarfati qui a 10 ans et qui nous écoute. Une des nombreuses fans d'Angèle. Angèle, 24 ans, une chanteuse extrêmement populaire. Un grand nombre de ses chansons interrogent le sens de la vie, des relations et du travail, même avec un succès aussi important que le sien. Vous l'entendrez dans sa chanson Flou. Et à 17h31 sur France Culture, aujourd'hui dans Être et Savoir, eh bien, nous interrogeons ce sens du travail et peut-être des études aussi. Je dois vous indiquer que Angèle est en couverture du dernier numéro de Télérama, dont le titre est Avoir 20 ans en 2020. Donc, ça rejoint un petit peu notre thème. Il y a un très intéressant article d'Olivier Tesquet sur le rapport des jeunes au numérique avec la chercheuse Anne Cordier et puis un article de Marc Belpois, orientation études, à quoi rêvent les lycéens de province. Et bien nous on s'est demandé aussi à quoi rêvaient les jeunes. On va parler des jeunes d'aujourd'hui et on avait envie de vous faire écouter cette archive de 1971.
Alain, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire plus tard? Quel est le métier que vous avez choisi?
Pour l'instant, enfin, j'ai pas encore vu exactement entre ethnologie ou histoire de l'art.
Et vous êtes vous posé la question de savoir combien il y avait d'ethnologues en France et ce qu'on pouvait faire quand on avait histoire de l'art à son actif. Je ne suis pas contre ces professions, je les trouve très nobles, très belles et très bien, mais avez-vous une idée? Vous êtes vous documenté sur l'importance du débouché en ce domaine?
Oui, je sais que c'est assez restreint.
Mais monsieur le recteur, là même, vous êtes très déprimant.
Mais non, je ne suis pas.
Quel idéal pour un jeune de dire que vous êtes vous demandé si ce que vous aimez faire, vous le trouverez dans la vie.
Mais pas du tout.
C'est
pas du
tout. Non, ce n'est pas vous le trouverez dans la vie, mais ce que vous trouverez, vous c'est une demande.
Des ethnologues, il y en a trop. Mais alors, si vous aimez ça, ne le faites pas.
Mais non,
mais non,
on a
dit
simplement de poser la question.
J'ai simplement dit à ce jeune homme, vous voulez être ethnologue. Eh bien, c'est très bien, c'est un beau métier, je suis
beau. Oui, mais méfiez-vous.
Mais je lui ai dit, oui, réfléchissez. Réfléchissez parfaitement, de manière à avoir à votre arc les différentes cordes qui vous permettront d'arriver à être ethnologue.
Mais enfin, dit Alain, le jeune homme, qu'on entend plus beaucoup ensuite dans cette émission de France Culture, diffusée pour la première fois le 24 janvier 1971. Notre journal est-il le vôtre? Et le monsieur qu'on entend, c'était le recteur Henri Gauthier. Alors, le sens des études, est-ce que on doit faire quelque chose qui nous plaît ou être dans quelque chose d'utile? Je ne sais pas comment vous l'avez tranché, Aurore Lebihan. Vous avez fait, vous, une école de commerce. Ce sont des études extrêmement coûteuses. Est-ce qu'à cette époque-là, vous ne vous êtes pas déjà interrogé sur ce que vous alliez faire après et sur le sens, si ce n'est de votre vie, du moins de ce choix et de ce que vous étudiez à l'époque?
Alors moi, j'étais une très bonne petite élève, bien dans le moule, hein. J'écoutais avec beaucoup d'attention mes parents qui voulaient absolument que je fasse une prépa et une école. Pauvre petite fille bourgeoise que j'étais, et ma conscience, on va dire, je l'ai développée un peu plus sur le tard lors de mes premiers stages et mon premier job par mes lectures, mes contacts. Mais c'est sûr que parmi le rang des paumés, et il n'y a pas que des gens d'école de commerce et d'école d'ingénieurs, mais il y a aussi des gens de la profession de la santé, des professeurs, la crise
alors,
de sens.
Après, il y a des gens qui s'appellent beaucoup les écoles de
la
commerce.
La crise de sens touche vraiment bien, tout le monde, mais on doit quand même constater que c'est des parcours qui, de par la nature des métiers et des carrières qui les suivent, sont un petit peu... Pour moi, on était vécu comme des périodes assez vides de sens, parce que le commerce, les écoles de commerce encouragent leurs étudiants à rejoindre des boîtes dont l'objectif principal est faire du profit et de vendre des produits dont on peut questionner parfois l'utilité. Donc voilà. Après, il y a d'autres voies, il y a l'entrepreneuriat social, il y a d'autres modèles. L'école de commerce peut aussi mener vers des métiers avec du sens. Mais c'est sûr que comparé à une formation de médecin ou une formation de céramiste, ce sont des métiers moins concrets et dont je questionne la finalité sociale et environnementale est vraiment questionnable. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a eu un appel des étudiants qui ont signé une pétition qui a été, je sais pas le nombre de personnes, d'étudiants qui ont signé cette pétition, mais des gens d'école d'ingénieurs et de commerce qui ont dit, moi, je ne veux pas travailler dans une entreprise qui nuit à l'environnement. Et c'était assez fort. Enfin, je pense que cette prise de conscience, même dans les écoles de commerce, moi, je suis sortie il y a 12 ans quand même. Hein,
oui,
donc,
mais...
entre temps, il s'est passé pas mal de choses et je suis assez heureuse de constater que le rang des personnes qui ont des prises de conscience au sein de ces écoles grandit.
Ce qui se passe aussi, c'est au sein même de ces formations, des volets vers l'économie sociale et solidaire, par exemple, pour répondre à cette demande. Mais ça, on en a déjà parlé dans une émission sur les écoles de commerce qu'on a faite il y a à peu près 2 ans. Et on mettra le lien sur la page de l'émission. Noémie Lefebvre, pas sur les écoles de commerce, mais sur cette idée que les études doivent être tout de suite réinvesties dans des compétences professionnelles, parce que évidemment ça touche à la fois les études de lettres mais aussi l'orientation dans des séries. Alors il y a plus de séries maintenant avec la réforme du lycée, mais le choix de prendre des options littéraires ou certaines options artistiques ou ensuite à l'université de s'orienter vers telle ou telle discipline moins cotée. Et je pense aux lettres en particulier, puisque vous êtes écrivain, Noémie Lefebvre.
Oui, alors après, je dois spécifier que, moi, j'ai pas fait lettres, j'ai fait sciences politiques, donc c'est un peu particulier aussi. N'empêche que, je connais beaucoup de personnes qui ont fait une fac de lettres. Mais en sciences politiques, effectivement, c'est précisément des études qui sont assez cotées sur le papier. Et après, se pose la question de savoir sur quoi on travaille. Et en fait, en essayant d'écrire le dernier roman là que j'ai publié chez Vertical, le Poétique de l'emploi, je me suis intéressée, j'ai puisé un peu dans mes cours parce que ça m'arrive d'enseigner la science politique, notamment à Lyon 2, j'ai retrouvé en fait des conceptions de ce que sont les études, ce que c'est que l'étude à l'époque de Thomas More au XVIe siècle. Et ce qui est frappant, en fait, c'est l'emploi du mot étude au singulier et son usage au pluriel. Donc l'étude au singulier comme temps protégé, en fait. tant protégé du travail, donc tant mis en dehors du temps de travail. Donc dans l'utopie de Mort, ce sont deux temps différenciés. Le temps de travail est limité pour laisser un temps à l'étude. Et ça, c'est vraiment une idée de son époque, d'humaniste, qu'on retrouve encore, dont on retrouve encore la trace, à mon sens, dans ce qui est devenu l'université pour tous, aujourd'hui encore, avec les traces, la Sorbonne, etc., mais malgré tout, aujourd'hui, disparaît sous une forme de pluralité des études, avec des orientations, de création de master, etc., et qui font perdre, en fait, qui laissent les étudiants dans une ambivalence, puisqu'on leur dit à la fois, vous avez un temps protégé pour construire de la pensée, et en même temps, ce temps protégé, il faut que vous l'utilisiez à plein pour être le plus performant possible sur un marché du travail sur lequel il va falloir que vous alliez le plus vite possible, le mieux armé possible. Or, ce paradoxe n'est pas levé dans un certain nombre de cursus d'études. En sciences politiques, dans les sciences sociales en général. Alors, il est très clair pour les filières qui sont plus économiques, mais pour un certain nombre de parcours d'étudiants, la philosophie, les sciences sociales, l'histoire, etc., la question du temps d'études comme temps à part par rapport à l'insertion sociale est finalement aujourd'hui emportée par ce courant qui est de performation des études. Les jeunes anthropologues qui sortent de Master 2, il faut qu'ils soient employables. Or, 5 ans d'anthropologie ne veut pas forcément dire emploi, il veut dire formation à l'anthropologie. Donc là, on est sur des paradoxes qui ne sont absolument pas réglés maintenant et qui font, pour moi, une matière pour écrire, pour dire quelque chose à cet endroit-là précis qui est un impensé, à mon avis, de l'évolution de l'université.
C'est une matière à penser pour tout le monde et une matière littéraire pour vous, Noémie Lefebvre. Pour vous, François Sarfati, que signifie cette espèce de paradoxe entre un temps pour penser et se construire et un temps... Et moi, je pense que ça commence au lycée, voire au collège, où, de toute façon, il faut bien prendre le temps de s'orienter, et on en parle dès la troisième, dès la seconde encore plus, avec la réforme du lycée, les choix qui doivent être faits en première, choix décisif, puisque on construit son bac. D'ailleurs, on consacrera bientôt une émission à la réforme du lycée.
On retrouve dans l'archive sonore un élément qui est central dans ce qu'on est en train de dire, qui est au fond l'idée d'un adéquationnisme à la française. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ? Il se cache derrière cette idée que les études devraient être immédiatement l'occasion d'acquérir un certain nombre de choses utile pour son insertion professionnelle et pour être en capacité de faire des choses une fois qu'on sera sur un poste de travail. Et on le voit, le recteur dans le sujet de 71 est déjà sur ce sujet-là. Au fond, l'anthropologie, ça sert à rien parce qu'on ne voit pas bien comme ça immédiatement en quoi faire de l'anthropologie, ça nourrit un poste de travail dans une grande entreprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là, elle va traverser la société française et elle va traverser les élites, et notamment les élites qui s'intéressent à produire le système scolaire. Et au fond, on introduit depuis très longtemps, on introduit des moments où on se dit mais il faut pouvoir être capable de s'y retrouver dans le monde professionnel. Je rappelle qu'il y a un stage au collège, un stage en troisième, dans lequel un gamin de troisième doit déjà commencer un peu à sentir quelle pourrait être sa voie professionnelle. Et donc, on est bien loin d'être...
Mais en même temps, ça peut s'avérer un moment extrêmement intéressant aussi.
Alors, en effet, ça peut parfois s'avérer être un moment particulièrement intéressant. C'est vrai que si on a une tante ou une cousine vétérinaire et qu'on souhaite soi-même éventuellement devenir vétérinaire, on a l'occasion, dès la troisième, de faire un stage de vétérinaire. Si malheureusement, on vient des quartiers populaires et qu'on a un papa intérimaire, eh ben, en particulier... quand on a un nom à consonance étrangère et que on vient d'un endroit comme ça, plus en difficulté, bah, qu'est-ce qui s'observe ? Il s'observe que ces gamins-là, eux, ils ne vont pas trouver de stage. Et dès la troisième, en fait, on leur dit, mais finalement, la réalité du marché du travail à laquelle tu dois te confronter, c'est pas expérimenter un travail qui va t'intéresser, c'est expérimenter une forme de précarité dans l'accès, parce que l'accès à l'emploi se fait pour partie avec ce qu'on appelle aujourd'hui du capital social, plus largement du réseau, et donc, fils d'intérimaire, on a moins de réseau, moins de capital social et moins de possibilités de faire un stage intéressant.
J'indique que des associations aujourd'hui s'en occupent, qu'on peut proposer des stages et que les enseignants peuvent aussi essayer d'ouvrir les horizons. Ils le font d'ailleurs, mais vous avez parlé d'adéquationnisme à la française. François Sarfati, ça veut dire que ça se passe différemment ailleurs ? Où et comment ?
Alors, ça veut dire d'abord que cet adéquationnisme à la française, il n'est pas vrai complètement pour tout le monde. Au fond, on peut être un brillant énarque, avoir passé un peu de temps à faire de la philosophie et avoir accompagné des grands philosophes, en ayant eu le temps de prendre le temps de réfléchir pour réfléchir et puis se retrouver dans des fonctions
et
très
on peut
opérationnelles.
Tout à fait citer le nom d'Emmanuel Macron.
À la banque Rothschild. Et ça.
Et qui a aussi un cursus de philosophie, ouais. Allez-y.
Exactement, et ça de fait, on voit que pour une certaine élite en France, on a le droit de papillonner et de réfléchir, mais les mêmes élites considèrent que pour une grande classe moyenne qui se rend dans les études supérieures à l'université, mais aussi ailleurs, au fond, on doit resserrer les mailles du filet pour se préparer à l'action dans le cadre du travail.
Bien qu'à Sciences Po, maintenant, par exemple, pour ne prendre l'exemple que de cette école qui ne représente pas tout, évidemment, aujourd'hui, il y a des années de cassure, je ne sais plus exactement comment on appelle ça, qui sont proposées aux étudiants où on peut partir en stage à l'étranger. On parle évidemment d'étudiants plus privilégiés, ne serait-ce que parce que cette école est extrêmement sélective, mais ce n'est pas la seule à faire, à pratiquer cela. Il faut aussi qu'on parle des jeunes qui, eux, papillonnent, mais d'une autre manière, finalement, parce que eux sont peu diplômés et pour qui la jeunesse, finalement, va aussi beaucoup rimer avec rechercher comment chercher un emploi. C'était parfaitement illustré par un documentaire qui est sorti en 2015 et qui s'appelle « Les règles du jeu ». Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce.
Si vous dites juste « j'ai raté mon bac et en plus je cherche un boulot et ça marche pas », ça va être difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu en avant comme qualité ?
Spontané.
C'est-à-dire que tu es toujours à l'heure, quoi.
Alors, spontané ou ponctuel ?
Ponctuel. C'est en 13 secondes. En 13 secondes, un recruteur sait s'il va laisser sa chance à la personne.
Tu écoutes ?
C'est moi qui vous
écoute. Je m'en doutais que vous allez me le dire, ça.
Votre principal défaut, alors ?
J'encaisse. Quand j'en peux plus, je pète un câble.
Ok.
Allez voir le maximum de monde. Tous les employeurs sont là. Il y a du boulot à la clé. Allez-y.
Même si je travaillais 3-4 mois, ce serait bien et je serais magnifique.
Donc ça veut dire que si on trouve un projet qui vous plaît vraiment, vous êtes prêt à vous lever tôt tous les matins ?
Ben oui.
Candidate déterminée, a bien préparé son entretien. C'est quand même un bon retour, non ?
Un film de Claudine Borriès, j'espère que je prononce bien son nom, et de Patrice Chagnard, donc Les règles du jeu. Et puis, je vais vous lire, François Sarfati, mais aussi à Noémie Lefebvre et Aurore Lebihan, un extrait de votre propre prose avec Julie Couronnet. Vous avez signé un article dans Travail et Emploi en janvier 2018, je crois. Alors, je lis cet extrait. En ce qui concerne Maëla, ses parents perçoivent le RSA et sont sans emploi depuis plusieurs années. Le père de Maëla était employé polyvalent en supermarché et sa mère était caissière. Les deux frères de Maëla, 21 et 23 ans, sont également sans emploi à la maison. Bon, ils ne font rien. Les factures payées, il ne reste même pas 200 euros. Quant à Rebecca, elle est la cadette d'une fratrie constituée d'un frère aîné âgé de 22 ans, préparateur de commandes en usine, et d'une sœur, Benjamin, âgée de 17 ans, en CAP, employée de commerce. Sa mère est sans emploi après avoir été femme de ménage. Le père de Rebecca, ancien brancardier, est décédé alors qu'elle était âgée de 18 ans. Cette jeune femme déclare ne pas avoir de rêve. François Sarfati, si vous voulez bien commenter ce que vous avez vous-même écrit, c'est cette phrase qui est extrêmement brutale. Cette jeune femme déclare ne pas avoir de rêve.
Absolument. Il y a un élément qui est extrêmement important quand on parle de la centralité du travail, c'est que pour une large partie de la population, et en particulier chez les jeunes, la centralité c'est moins du travail, c'est-à-dire une activité et une tâche au sein d'un collectif, que l'accès même à l'emploi. Et pour les jeunes dont vous avez parlé, qu'on a rencontrés dans cette enquête, c'est des jeunes qui sont dans des situations sociales extrêmement difficiles, qui ont suivi des parcours d'abord de rupture scolaire, ensuite de rupture sociale. Et ces jeunes au fond, se retrouvent dans des grandes difficultés, dans des dispositifs où on va essayer de leur remettre un pied à l'étrier. Et au fond, on l'entend dans le documentaire que vous avez cité, on a une série de professionnels, des professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, qui vont aider ces jeunes, moins à trouver un sens à leur vie, qu'à essayer de se mettre en forme pour correspondre aux attentes des recruteurs. Et de fait, dans ces enquêtes, on voit bien que il s'agit pas de trouver un sens à sa vie, il s'agit pas de faire émerger des rêves, mais il s'agit d'aider ces jeunes à se conformer à un certain nombre d'attentes. Et de fait, il s'agit pas de rêver d'atteindre une profession dans laquelle on pourrait trouver du sens, mais il s'agit de faire en sorte de conduire ces jeunes à accepter ce qui est possible pour eux.
Mais le sens du travail, c'est pas forcément le sens de ce qu'on fait. Ça peut être le sens d'un collectif, le sens d'avoir des horaires et un rythme de vie qui nous permet de sentir qu'on a mérité son repos de fin de semaine, par exemple, une forme de dignité qu'on peut trouver dans le travail. C'est ce qu'on parlait, c'est ce qu'on disait à propos de la centralité du travail.
Vous avez absolument raison. Tous ces jeunes disent bien dans l'enquête qu'ils veulent aussi vite que possible vivre de leur travail. Ils en peuvent plus de vivre d'un certain nombre d'aides, d'allocations, des aides et des allocations qui sont très utiles pour eux pour survivre. Mais au fond, ils souhaitent atteindre un état dans lequel ils auraient la possibilité d'avoir la fierté, d'avoir gagné ce qui leur est utile pour vivre. Ça, c'est un élément qui est absolument central. Ceci dit, pour ces jeunes peu qualifiés, pour ces jeunes cabossés, ce qu'on observe le plus souvent, c'est ce qu'on leur propose le plus souvent, c'est des jobs d'abord dans lesquels l'expression de soi va être assez faible, des jobs de préparateur de commandes, des jobs où les tâches sont extrêmement répétitives, et puis aussi et surtout, c'est des jobs dans lesquels le statut d'emploi est tout à fait précaire, ce qui fait qu'ils n'acceptent pas à des collectifs de travail. Être intérimaire, être préparateur de commandes, je pense notamment aux travaux de David Gaborio, ça nous montre toujours des situations dans lesquelles on rentre dans un collectif et puis immédiatement on en sort parce qu'on va travailler dans une autre entreprise. Et donc en cela, le travail n'est pas pour eux vecteur de socialisation collective et c'est effectivement quelque chose qui est complètement à noter. C'est-à-dire qu'on aurait d'un côté gens qui auraient fait des études, qui auraient le droit de s'épanouir, enfin d'essayer de s'épanouir dans le travail, qui rejettent ce qu'on leur propose dans l'entreprise, et d'autres qui, à l'inverse, chercheraient à tout prix, mais à qui on refuse cette arrivée dans l'entreprise.
Et finalement, c'est cette individualisation et cet isolement qui semble aussi le marqueur de cette génération, en espérant ne pas avoir été trop pessimiste. Mais vous pouvez écouter aussi le podcast Les Paumés. Vous pouvez aussi écouter le podcast D'être et Savoir, lire François Sarfati et Noémie Lefebvre, dont le dernier ouvrage, Poétique dans l'emploi, a paru chez Vertical en 2018. On passe à la toute dernière rubrique de l'émission. Et c'est la leçon de choses de Sophie Bobert qui pose une question. D'où vient la colère? Eh bien, en ce qui concerne notre invité, de la colère de son propre père. Et cet invité, c'est Sarah Kaminski, fille du célèbre faussaire Adolfo Kaminski.
Alors je savais que mon père était juif, que ma mère était musulmane, je voyais bien qu'ils étaient un couple atypique, elle est noire, il est blanc, ils ont 30 ans d'écart, ça se voit. Voilà, la différence d'origine, de religion.
Mais saviez-vous que lui avait fait la guerre, avait passé la guerre
la Seconde Guerre mondiale en France hein.
Alors non, pas du tout. Moi, quand je suis arrivée en France, je pensais que j'étais algérienne, puisque j'étais née en Algérie, et je n'avais aucune connaissance de quoi que ce soit du passé de mon père. Il n'en parlait absolument pas. Mais en fait, en écoutant les conversations des grands avec mes frères, on a commencé à comprendre que effectivement, il avait fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. Donc ça, on entendait ça. C'était assez bizarre pour nous de se dire qu'il avait fait la guerre, parce qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il était pacifiste, qu'il n'avait jamais tenu une arme. Donc on se demandait aussi en tant qu'enfant, ça veut dire quoi faire la guerre sans armes en réalité. Et puis on a commencé à poser des questions et on a fini par savoir qu'il avait fait des faux papiers. Ça a commencé effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale où il est devenu le faussaire de Paris. Il avait seulement 17 ans et il s'est mis à produire des milliers de faux papiers pour sauver essentiellement des enfants qui après étaient cachés chez des fermiers pour leur permettre de traverser des frontières. Et puis c'est vrai que ce qui fait aussi sa différence, c'est qu'après la guerre, il a continué de faire des faux papiers pour toutes les causes qui lui ont semblé justes, et jusque dans les années 70. Donc c'est vrai qu'on se dit, waouh, pendant 30 ans, il a fait des faux papiers en étant clandestin, toujours dans l'illégalité. Mais bon, toutes les luttes de décolonisation, toutes les luttes d'émancipation contre tous les dictateurs d'Europe, et c'est vrai que ça paraît fou. Moi, j'ai aussi presque découvert l'histoire d'Europe et d'Afrique et d'Amérique grâce à son histoire, en fait. Mon père a quelque chose que souvent les enfants ont, et il l'a gardé toute sa vie, c'est-à-dire une intolérance totale à l'injustice. Souvent on voit ça chez les enfants, tout à coup, non, c'est très injuste, ils ne peuvent pas le supporter. Eh ben, il a ça, et il l'a gardé encore à 94 ans. Donc peut-être que c'est parce qu'il avait 15 ans quand il a été pour lui victime de la plus grande des injustices, c'est-à-dire l'assassinat de sa mère, pour lui, est un grand, grand traumatisme qu'il porte encore.
Par des Allemands, par la police française.
Alors on ne sait pas par qui, parce qu'elle a été jetée d'un train qui en route. Donc on ne sait pas qui l'a jetée du train, mais en tout cas, et si c'est la police, c'est soit la police française, soit les Allemands.
Est-ce que vous parliez de politique avec lui lorsque vous étiez enfant ou adolescente? Est-ce que lui-même prenez plaisir à tourner les pages d'un livre d'histoire à vos côtés, ou alors pas du tout? C'était deux pans de sa vie très, très étanches.
Alors en fait, moi j'ai eu une adolescence très rebelle, pour le coup. Je me suis révoltée très fortement. ce que je pouvais percevoir, c'est que par exemple, ma mère était très inquiète de ça. Elle avait été très inquiète des conséquences de ma rébellion.
Et juste traduisait comment cette rébellion, Sarah Kamensky?
Qui se traduisait par une colère générale envers la société, qui se traduisait par une envie de plutôt être dans la marge ou des choses comme ça.
Et c'était quoi? C'était des coupes de cheveux, une attitude, un look?
Ah oui, moi j'étais complètement punk. Totalement. Ah oui, absolument. Et ce qui était étonnant, c'est que ça ne faisait pas du tout peur à mon père. Il voyait ça. Je pense que d'une certaine manière, il comprenait ma colère et il avait confiance dans l'idée que je réussisse à la transformer en quelque chose de positif. Mais c'est vrai que par exemple, je fantasmais totalement sur George Sand, qui avait changé son prénom. Génial. Non mais elle m'a fait du bien. Je me suis dit que cette femme-là, elle aimait pas le monde dans lequel on l'avait posée. Et elle avait décidé de le vivre autrement. Voilà. Donc ça me plaisait beaucoup. Voilà.
Vous croyez qu'elle vient de lui, cette colère aussi?
Je sais pas si elle vient de lui, possiblement. C'est possible. De lui, de la vie en général, de l'exil, des exils répétitifs, de ma famille des deux côtés. Je sais pas ce qu'on transmet en tant que parent. J'ai pas trop d'idées là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé un établissement dans lequel je me suis sentie bien. J'ai fait mon lycée au lycée autogéré de Paris. Et là-bas, c'était parfait pour moi. Voilà, c'était un endroit où j'avais la sensation, d'abord, on était, c'était un endroit où les professeurs et les élèves géraient le lycée ensemble, à égalité. J'aimais bien ça. Voilà.
Mmh.
Et notez que Sarah Kaminski avait écrit un livre sur son père, Adolfo Kaminski, Une vie de faussaire, et qu'elle est co-commissaire d'une exposition, Adolfo Kaminski, faussaire et photographe, hommage à Paris, dans le quartier du Marais, jusqu'au 19 avril. Quant à nous, on se retrouve à 17h dimanche prochain ou quand il vous plaira en podcast. Bonne soirée sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture.